Laudetur Jesus Christus.
Antiquaetnova, c'est le nom d'une longue note du Saint-Siège sur l'intelligence artificielle, un texte qui a pour but de dresser quelques lignes à tenir envers ce qui est en passe de révolutionner nos vies quotidiennes. Nous verrons ce que contient ce document, nous en parlerons aussi avec le secrétaire du dicastère pour la culture et l'éducation, Mgr Paul Tai, qui a participé à sa rédaction. Une longue colonne interminable de 300 000 Palestiniens est remontée le long de la mer Méditerranée vers le nord de la bande de Gaza hier. C'est la route du retour pour cette population. Après 15 mois de guerre, nous ferons le point. L'Union européenne va assouplir certaines de ses sanctions contre la Syrie. Un soulagement pour la population civile, unique victime de ces mesures, comme nous le rappelle l'œuvre d'Orient active dans le pays malgré la guerre.
Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
Bonjour. Opportunités et défis éthiques soulevés par l'intelligence artificielle, l'IA, c'est ce qui est au cœur d'un dense document rédigé par les dicastères pour la doctrine de la foi et pour la culture et l'éducation et rendu public ce matin. L'Église répond ainsi à une des questions les plus brûlantes et clivantes de notre époque. Les 30 pages du texte abordent l'IA sous tous ses aspects, éducation, économie, travail, santé, relations internationales et guerre. Antiqua et Nova, c'est son nom, en référence à la sagesse ancienne et nouvelle, adopte Delphine Allaire une approche intégrale et prudente.
Il rejoint Xavier à la cohorte de documents du Saint-Siège répondant aux signes des temps. Celui-ci fera date même si les défis éthiques de l'intelligence artificielle ne sont pas une préoccupation nouvelle du pontificat. François ayant développé le concept de l'algorithme, organisé de nombreuses conférences et même participé au G7 spécialement sur ce sujet en juin dernier, en a fait un axe pionnier. Antiqua et Nova énumère avec un savant équilibre raisonné les dangers de l'IA, inégalité, monopole, développement de la guerre, mais aussi les progrès qu'elle encourage comme faisant partie de la collaboration de l'homme avec Dieu. Au cœur de la réflexion, des considérations éthiques et anthropologiques selon les différentes sphères de la vie où la dignité humaine est menacée par l'IA, comme dans les relations humaines par exemple, oui à la favorisation des connexions, non à l'anthropomorphisation, problématique pour les enfants notamment, bénéfique aux nouveaux emplois mais risquant la déqualification, amélioration de la santé, mais solitude accentuée. Fait notable les mentions de la surveillance numérique ainsi que des ressources énergivores de l'outil qui n'est, rappelle le Saint-Siège, qu'un pâle reflet de l'humanité. L'IA ne doit pas nous rendre esclaves de notre propre travail, mais demeurer un complément à la richesse de l'intelligence humaine.
Delphine Allaire, Antiqua et Nova, c'est donc l'intitulé de cette note qui se veut comme une ample réflexion sur la relation entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine. Selon le secrétaire du dicastère pour la culture et l'éducation, le texte vise à fournir des orientations sur le développement et l'utilisation éthique de l'intelligence artificielle. Mgr Paul Taig soutient qu'Antiqua et Nova est un document utile pour se poser les bonnes questions et ainsi aider au discernement.
Le document se concentre sur un certain nombre de points. Il y a les grandes questions auxquelles tout le monde a pensé, l'avenir du travail, la guerre, les fausses informations, les inégalités. Il y a aussi des questions éthiques et sociétales que nous voulons examiner. En les abordant, nous essayons aussi de nous concentrer sur une question plus fondamentale, celle de la signification de l'être humain. Qu'est-ce qui donne à la vie humaine une valeur, un but et un sens? On reconnaît que les systèmes d'intelligence artificielle peuvent améliorer et même accroître certaines parties de notre humanité, c'est-à-dire notre capacité à raisonner, à traiter, à discerner, à découvrir, à voir les modèles et même à innover. L'intelligence artificielle peut certainement améliorer cela. Nous tenons également à dire que ce type d'intelligence n'est pas le seul. Il existe une conception plus large de l'intelligence qui concerne notre capacité humaine à trouver un but et un sens à la vie. Et une des questions que nous devons nous poser, c'est qu'est-ce qui est bon pour l'humanité? Il s'agit là d'une forme d'intelligence que les machines ne peuvent pas vraiment remplacer.
Is a form of intelligence which machines can't really replace.
Des propos recueillis par notre confrère de la rédaction anglophone David Watkins. Et pour plus de précisions sur ce texte et pour avoir des approfondissements sur ce thème, une seule adresse, www.vaticannews.va. Combat toujours en cours à Goma, la grande ville de l'Est de la République démocratique du Congo, entre les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise et les forces armées congolaises. Ces affrontements ont causé hier la mort d'au moins 4 soldats sud-africains en mission en RDC, ajoutés aux 9 morts du même contingent samedi. Il est très difficile de savoir exactement ce qui se passe sur place, les communications étant mauvaises quand elles ne sont pas inexistantes. L'ONU en tout cas se dit préoccupée par la pénurie alimentaire à Goma. Les prochaines 24 heures seront cruciales, a même alerté le PAM, le Programme Alimentaire Mondial. Sur le plan diplomatique, l'Union africaine convoque aujourd'hui son Conseil de paix et de sécurité et l'ONU, le Conseil de sécurité. C'est dans ce contexte que l'évêque de Goma a exprimé son écœurement par rapport au bombardement, entre autres, de l'hôpital général Charité Maternelle causant la mort de nouveau-nés. Il déplore aussi le pillage par la population et par des militaires de magasins et de dépôts, ce qui aggrave la situation humanitaire déjà déplorable, souligne-t-il. Monseigneur Ngoubi appelle toutes les parties au respect absolu de la vie humaine et des infrastructures privées et publiques, à éviter les violences sexuelles également. Il exhorte aussi le clergé, toutes les personnes de bonne volonté, à prêter assistance à qui en a besoin. Et puis on a appris il y a quelques minutes qu'à Kinshasa, la capitale de la RDC, plusieurs ambassades, dont celle du Rwanda, de France, de Belgique, de l'Ouganda et des États-Unis, ont été attaqués par des manifestants dénonçant le conflit dans l'est du pays. Ils sont déjà environ 300 000 Palestiniens à être retournés dans le nord de la bande de Gaza depuis hier. Pendant toute la journée, une marée humaine a remonté à pied la route côtière, allongeant des kilomètres et des kilomètres d'immeubles et de bâtiments en ruine, ce qui n'a pas empêché l'armée israélienne de mener 2 bombardements la nuit dernière, tuant 2 personnes, dont un enfant de 5 ans. À Jérusalem, Valérie Ferron.
Depuis hier matin, c'est un flot continu de familles déplacées qui regagnent, à pied ou en voiture, la ville de Gaza et la région nord, heureux de retrouver leurs proches, dont ils ont été séparés depuis des mois, parfois même depuis plus d'un an, ainsi que leurs maisons, même si souvent celles-ci ne sont plus qu'un tas de gravats. Certaines familles ont eu la bonne surprise d'en trouver les murs encore debout et ont aussitôt commencé à nettoyer des pièces pour s'y installer, alors que beaucoup d'autres cherchent objets et souvenirs au milieu des décombres. Les autorités locales estiment à 120 000 le nombre de tentes nécessaires pour abriter ces familles qui ont tout perdu mais qui sont néanmoins soulagées d'avoir pu revenir chez elles. Ces retours restent cependant dangereux, notamment la nuit, l'armée israélienne pouvant reprendre ses vols au-dessus de la bande de Gaza, interrompue en journée conformément à l'accord de cesser le feu. C'est ainsi qu'un conducteur de bulldozer et un enfant de 5 ans ont été tués hier et plusieurs personnes blessées dans 2 bombardements. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
C'est un premier pas vers la reconstruction de la Syrie après les ruines de la guerre civile. L'Union européenne lève progressivement les sanctions visant les responsables syriens des secteurs de l'énergie, du transport ou de la finance. Une décision saluée ce mardi à Damas. Certaines chancelleries européennes jouent toutefois la prudence, réclamant des gages concrets de la part des nouvelles autorités en place. C'est aussi la position de l'ONG catholique française, l'œuvre d'Orient, qui appelle de longue date à assouplir ces sanctions qui n'asphyxient qu'une catégorie de personnes, les civils innocents, comme nous le confie son directeur pour le Liban et la Syrie, l'humanitaire Vincent Gello.
Il s'est avéré pendant toutes ces années que toutes ces sanctions en fait impactaient indirectement sur la vie quotidienne des gens, parce que ça signifiait qu'il n'y avait pas de commerce, pas de transactions et que le pays était fermé sur lui-même. Et en plus de cela, toutes ces sanctions-là, nous, à l'œuvre d'Orient, pendant des années, on l'a dit, ces sanctions impactent sur la vie des Syriens, impactent sur la population syrienne, et que ce n'était pas Bachar el-Assad dans son palais qui n'avait pas d'électricité ou pas de quoi manger. Ces sanctions, on l'a vu à travers l'histoire, les sanctions qu'il y a eu à Cuba, qu'il y a eu dans la dictature de Saddam Hussein ou même en Iran, ne font pas forcément tomber les régimes, mais par contre elles affament la population. On demandait depuis longtemps à ce qu'on puisse réévaluer la pertinence de ces sanctions. C'est souvent surinterprété par les entreprises et les organisations qui du coup ne voulaient rien faire avec la Syrie. Et donc c'était terrible pour les gens et pour les Syriens. Aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle pour les Syriens. Clairement, on peut s'en réjouir. Néanmoins, nous appelons à la prudence vis-à-vis du nouveau pouvoir en place. Il faut voir concrètement dans les paroles et dans les actes comment toutes les composantes de la Syrie, toutes les minorités, la majorité sunnite, va être considérée par ce nouveau pouvoir en place. Ça nous paraît important aussi.
Des propos recueillis par Delphine Allaire. L'effondrement meurtrier d'un auvent de la gare de Novi Sad le 1er novembre aura eu raison du premier ministre serbe. Milos Vucic, à la tête du gouvernement depuis mai 2024, a présenté ce matin sa démission au président Aleksandar Vucic. Épilogue de 3 mois de manifestations contre la corruption, notamment des étudiants qui ont bloqué Belgrade, la capitale, pendant 24 heures hier et aujourd'hui. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera ce soir à 18h heure de Rome. D'ici là, très bonne journée.